mon podcast sur la commode. Une émission proposée par la scène nationale de Bourg-en-Bresse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui rendent le spectacle vivant. À l'ouverture des tiroirs, Claire, Gaëlle, Julie et Lisiane. Ouvrez vos écoutilles, laissez-vous guider, on entre dans les coulisses. Ne restez pas là les bras ballants. Écoutez la douce voix de Yann Rabalan, chorégraphe au talent indéniable, cet être adorable est notre complice de l'amour et un vrai pédagogue qui vous prend par la main pour vous faire entrer dans son univers. Tantôt tendre, tantôt cru, toujours sensible et sensuel, sa danse invite à lier les corps. J'adore. Entrez en matière avec Claire.
Bonjour Yann, bonjour. Vous êtes chorégraphe et vous dirigez la compagnie Contrepoint.
Ouais.
Vous êtes l'artiste complice de la scène nationale de Bourg cet automne qui présente des spectacles autour de la thématique amour. Du coup, l'amour, les amours, ça doit vous parler. C'est un thème récurrent dans votre travail artistique ?
C'est... Alors en fait, ma compagnie s'appelle Contrepoint. Et le contrepoint, déjà, alors ça apparaît comme un terme un peu technique musical. Parce que c'est comme si c'était deux mélodies qui avaient leur vie propre, donc voilà, leur autonomie. Comme si deux mélodies se rencontraient et se croisaient, alors peut-être de manière fusionnelle, peut-être de manière un peu décalée, peut-être qu'elles se séparent, qu'elles se recroisent à nouveau. Et en fait, le contrepoint, c'est ça, c'est tout le rapport entre ces deux mélodies. Quand on voit sur une partition des courbes et des contre-courbes, eh ben, on voit qu'elles créent des volumes et parfois des harmonies, parfois des dissonances, parfois des décalages. Donc en fait, le contrepoint, c'est un peu de l'amour. Et moi, c'est ça qui m'amuse et qui me, plus au-delà de qui m'amuse, c'est ce qui m'émeut même, je dirais, quand je compose de la danse, c'est de voir comment les gens ils sont les uns avec les autres, quoi.
Et être artiste complice, ça signifie quoi concrètement, être artiste complice de la scène nationale ?
Alors, c'est très singulier à Bourg-en-Bresse parce que on fait beaucoup de choses en peu de temps. Donc, être complice, c'est pour moi déjà. C'est être complice de toute une équipe à des postes très différents. C'est-à-dire qu'on s'est rencontré avec toute l'équipe. J'ai eu la chance d'être là dans une réunion où en fait j'ai rencontré vraiment aussi bien la technique que l'administration, que les gens qui bossent à la communication, que les gens qui travaillent aux relations publiques, à l'accueil billetterie. Et donc c'est parfois des gens dans un théâtre qu'on croise pas forcément quand on est artiste. Et là, être complice, c'est venir répéter des spectacles qui ne sont pas encore créés. C'est faire des projets participatifs, amateurs, donc des gens qui aiment, mais dont ça n'est pas le métier, pour participer justement à des projets qui vont donner lieu à des restitutions. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Fragment d'amour. Et on est parti sur le territoire de Châtillon-sur-Chalaronne. Et donc, on est plusieurs intervenants. Moi, j'ai fait, pour ma part, un petit court-métrage avec des collégiens en option danse. Julien Jescoff, qui est metteur en scène et comédien, va travailler autour de la thématique amour avec un groupe de volontaires. Marie, qui est une danseuse, va travailler en danse. Et puis, Mignat, qui est Madame Miniature, qui est une personne qui travaille avec moi sur le son, sur les spectacles, va faire des petites interviews des collègues de parole. Et donc, tous ces fragments d'amour, on va en faire une sorte de petite constellation d'imagerie quoi, collective. On va essayer de ne pas faire un catalogue, mais plutôt comment ces petites histoires, ces petites rencontres en théâtre, en danse, en vidéo, elles peuvent dialoguer les unes avec les autres. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est comment les gens, ils nous font confiance et ils se livrent un peu. Parce que je dis toujours aux interprètes que quand on monte sur scène, c'est toujours pour se dévoiler un peu. Alors, on se dévoile comme on peut. Hein. Des fois, on n'est pas à l'aise. Des fois, on a très envie. Voilà. Et on essaye plus de se dévoiler que de se cacher. Et moi, j'essaye de créer du lien avec justement les participants pour qu'ils puissent dévoiler un peu d'eux-mêmes. Voilà. C'est un peu ça l'amour aussi, hein, c'est se dévoiler, hein, parfois au sens propre comme on figurait. Et puis être complice, si je continue le fil de complice, c'est aussi venir jouer des spectacles qui existent déjà, qui eux sont créés. On a joué les bulles chorégraphiques dans le temps fort que je t'aime en septembre. Et puis on va jouer 14 duos d'amour. Là aussi, c'est Bah, c'est des petits fragments d'amour, en fait, hein. C'est des petites tranches d'histoire. Et moi, ce qui m'a plu dans 14 duos, c'est de travailler sur, je dirais, je sais pas si je dirais la complexité des sentiments amoureux, pas non plus exagéré, mais enfin, quand même, c'est parfois très simple, et parfois, je dirais pas que c'est complexe, je dirais que c'est un petit millefeuille. Moi qui suis assez gourmand, il y a plein de couches et de polysémie. C'est souvent ce qui m'a intéressé sur les pistes chorégraphiques quand on a créé des situations de relations amoureuses, dans des duos, vous verrez qu'il n'y a pas que des duos d'ailleurs, mais dans la relation à deux, on va dire, il y a justement la polysémie de comment une histoire peut être à la fois parfois extrêmement tendre, douce, sensuelle, et parfois carnassière, cruelle, plus ambiguë.
Pour finir et revenir à l'amour, même si on s'en est pas bien éloigné, mais oui. J'ai quelques questions indiscrètes à vous poser.
Très bien.
Si vous étiez un film, vous seriez plutôt Dirty Dancing, Billy Elliot ou La La Land?
Ah, j'aurais dit Dirty Dancing juste pour les petits, juste parce qu'on laisse pas bébé dans un coin.
Si vous personnifiez l'amour, vous seriez platonique, sensuel ou foudroyant?
Sensuel, je pense, parce que quand même, cette pièce a été créée juste après le premier confinement, on a tous été enfermés, et vraiment, on avait besoin de se prendre dans les bras. Donc, je pense que c'est sensuel, ouais.
Et pour finir, quel est le surnom amoureux que vous ne donnerez jamais, ou que vous n'aimeriez pas qu'on vous donne, entre ma grosse louloute, mon sucre d'orge ou ma perle rare?
Ah, alors, il n'y en a aucun des trois. Celui que je déteste, c'est mon bébé. Vraiment, alors ça, c'est insupportable. Parce que vraiment, je trouve que c'est... Alors là, pour le coup, en termes de liberté, c'est extrêmement réducteur. Parce que ma grosse louloute ou mon sucre d'orge ou ma perle rare, franchement, moi, ça m'amuse. Pas de surnom, souvent, j'appelle par le prénom et ça suffit. Les attentions sont autres que dans juste le petit surnom. Parce qu'en fait, on peut être... extrêmement cassant et dur, même avec un surnom le plus tendre possible. Donc en fait, c'est pas le mot qui est important, c'est l'intention derrière, je crois.
Merci beaucoup Yann pour ce moment radio partagé. Et donc, on se donne rendez-vous le 30 novembre sur le plateau du théâtre pour 14 duos d'amour.
Avec plaisir.
Respirez bien, prenez le temps. On entre dans les méandres de la création. Et voici venir Sandrine Roldan, l'une des artistes à l'origine de la compagnie Lily Kamikaze. Le nom de cette compagnie nous dit déjà tout de leur envie de tout envoyer péter, tout foutre en l'air, ou du moins de bousculer les apparences et les conventions. Alors, êtes-vous prêts? Suivez Lysiane.
Alors, bonjour Sandrine, merci beaucoup de me recevoir pour que je puisse t'interviewer pour le podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Donc je m'appelle Sandrine, je suis danseuse, je suis chorégraphe pour une compagnie qui s'appelle Lily Kamikaze que j'ai créée avec Elia Dujardin et Célia Lefebvre. La compagnie elle est basée sur donc, nos appétences pour la danse et puis nos appétences pour le clown. Mais moi j'ai commencé le clown comme étant un personnage qui parle. Mais j'ai appris par la suite que ça pouvait être un personnage très corporel. Et là où ça m'intéresse avec la danse, c'est que c'est vraiment un acteur du sensible et du poétique. Et du coup, c'est un personnage qui va jouer, danser sur les brèches du sensible, sur les brèches de la poésie, sur le fil du drôle. Et j'aime beaucoup me dire que la danse, elle vient de là.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle Love Manifesto qui a eu lieu pendant le temps fort Que je t'aime à la scène nationale en septembre? Comment vous en êtes venu à le créer?
Love Manifesto, c'est une idée originale d'Elia Dujardin qui un jour m'a dit « J'ai fait plein d'enregistrements sur l'amour, viens, on improvise quelque chose ». Et donc l'idée, c'est de se dire ben, comment on se met ensemble dans une situation de douceur et d'amour et de quelque chose qui nous fait sourire, quoi. Et donc Love Manifesto, c'est parti de là. Et puis plusieurs années après, carte blanche Lily Kamikaze au petit festival des Andes Folles. Alors, Elia m'a dit, je reprendrais bien cette chose, mais plutôt dirigée sur le coup de foudre. Je lui ai dit, allez, top là. Et donc, coup de foudre.
Et donc, une fois qu'avec Elia, vous aviez travaillé sur cette idée de coup de foudre toutes les deux, vous avez travaillé à quatre sur ce projet. Quelle forme ça a pris avant que ça ne devienne ton solo, celui que tu as joué à la scène nationale?
Donc, on était quatre, trois danseuses, une musicienne, qu'on recrée un coup de foudre à l'échelle de cet endroit. Donc, c'était un lieu unique en extérieur, où les gens rentrent dans une enceinte et où là vont se réveiller, où ensemble on va faire se réveiller la terre et se déchaîner les éléments pour que le coup de foudre nous arrive. Mais déjà en étant à 4, on avait changé ce format parce qu'on avait vécu une sortie de résidence à la Fraternelle à Saint-Claude dans le Jura. C'était la première fois qu'on a testé cette ambiance déambulatoire, ouais. Et une salle, une ambiance. Et ensuite, Elia a eu cette étincelle de dire « Moi, ce que j'ai préféré, c'est le moment où on a déambulé, c'était la Fraternelle à Saint-Claude, on a déambulé dans tous les espaces, je suis plus attirée par cette forme-là. » Et donc, déjà, quand on était encore quatre, on a retransformé pour ce format-là. Et finalement, en étant seule, j'avais envie... C'est le format qui m'excitait le plus, quoi.
Et alors, toi, comment tu fais dans ta conception de ce spectacle pour l'adapter à chaque lieu?
Quand je vais visiter les endroits, je vais visiter avec ce prisme-là, de me dire ok, il faut que je trouve un lieu pour, enfin un endroit où il y a des tables, des chaises, où je peux recréer un bar et où les gens sont posés.
Ouais.
Il faut que je trouve un lieu avec du plafond assez haut pour pouvoir faire mes accroches de couverture de survie. Il faut que je trouve un lieu, un passage en extérieur.
Et comment t'en es venue à ces contraintes-là alors, celles que tu viens de me dire? Comment t'en es venue à se dire, ça c'est, on ne peut le changer sinon tout mon objet artistique s'en va quoi?
Parce qu'en ayant travaillé dramaturgiquement avec Maud, c'est logique pour moi de commencer par là où le spectacle commence. C'est logique parce que j'ai envie que ce soit j'ai envie que ça commence par un endroit de surprise, puis j'ai envie que ce soit doux, j'ai envie qu'on rentre là-dedans. C'est quand même un format particulier parce qu'on se déplace.
Ouais.
Parce que moi, je suis proche des gens. Du coup, je me dis que ça, je peux pas quand même pas sauter dans la flaque les deux pieds joints et éclabousser tout le monde. Donc, je me dis... Donc, pour moi, c'est logique que ça commence par une entrée à laquelle on s'attend pas, mais je suis loin. Et du coup, on a le temps de, de dire c'est qui cette personne. Puis, c'est assez logique pour moi de ça, d'aller à un endroit où je vais être proche, mais ce qui se passe est relativement doux. Et après, ça a du sens parce que je sais qu'après ce moment électrique, par exemple, des couvertures de survie, donc on arrive dans ce grand espace, dramaturgiquement, c'est logique parce que je parle d'électricité, je parle de à quel moment ça nous titille, de à quel moment ça nous fait frétiller, et c'est le moment où après on sort et où là je voudrais que ce soit une bouffée d'air. Enfin, on a déjà passé 2-3 scènes dans le théâtre et que quand on sort, ce soit un endroit où on fasse « Ah, waouh, ah ouais, il y a de la place !» Ah, c'est excitant que pour jouer sur les espaces, de savoir que cet espace arrive après cet espace, pour moi, c'est dramaturgique. C'est de se dire, je sais que là, ça fait une demi-heure qu'on est enfermé, on a vécu une scène où on était tout serré,
ouais.
Et là, on va pouvoir sortir, tiens, ça va nous faire respirer, puis peut-être que ça va nous... C'est une petite récré, quoi.
Et toi, quand t'as été toute seule, comment est-ce que tu t'es nourrie d'inspiration extérieure? Comment t'accueilles la nouveauté qui peut t'arriver au cours du processus de création, et comment on t'accueille peut-être des nouvelles personnes dans le projet qui arrivent en cours de route? Je pense notamment à Maud, la dramaturge qui t'a aidé lors de la conception de Love Manifesto.
J'adore cette question. En fait, je pense que effectivement être seule dans ce projet, comment je fais pour avoir un regard nouveau, et puis comment je fais pour avoir un regard sur moi? Parce que je veux créer ce spectacle, mais je veux être aussi sur scène. Je pouvais pas être seule. Enfin, j'étais trop imprégnée de...
Il fallait Maud, du coup.
Voilà. Okay. Les Maud, je lui dis, viens m'aider. J'ai vraiment beaucoup de goût pour ce qu'elle fait. Enfin, c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. Enfin, c'est vraiment une autrice géniale de texte. C'est une super comédienne. Le renouveau, il a été là. Et il a été aussi dans ma position, c'est-à-dire, ok, tout est remis à plat. J'adore ce qu'on a fait avant, mais là j'ai besoin que Maud, tu me dises si ça a une cohérence encore maintenant que je suis seule. Enfin, il y avait des choses auxquelles je croyais et que j'avais pas envie de quitter, c'est-à-dire le format déambulatoire.
Ouais.
J'avais pas envie de quitter le coup de foudre. Enfin, j'avais envie que ce soit Love Manifesto, que le format qu'on avait imaginé aille jusqu'au bout. Et il y avait, au départ, je voulais vraiment garder toute la matière qu'on avait créée à 4, et en fait, j'en ai très peu gardé.
Comment t'as fait pour choisir ?
C'était dur, mais en fait, ça a été logique. Et encore une fois, grâce à Maud, elle qui m'a posé tellement de questions. Enfin, moi, j'étais dans cette création depuis 2 ans, 3 ans, et elle est arrivée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Maud me proposait quelque chose, beaucoup plus sensé. Et donc, j'étais toujours très enthousiaste d'essayer des choses. Alors, des fois, on se retrouve face à des murs, c'est-à-dire que, ok, cette idée qui avait l'air si géniale, elle ne fonctionne pas.
Et comment tu sais que ça ne marche pas, par exemple ?
En me filmant, je me disais, mais c'est long. On ne peut pas passer un quart d'heure là-dessus, sur cette matière, quoi. Comment dire, rythmiquement, ça ne fonctionne pas. En fait, ce que je veux, c'est une forme de zapping. Ce que je veux, c'est qu'on ait le temps de visiter ce musée.
Et du coup, toi, pendant tes... Le fait d'avoir une période de résidence qui soit vraiment délimitée dans le temps et une nécessité d'avoir un objet fini, où ça s'inscrit dans le temps fort que je t'aime, où il y avait d'autres spectacles et tu faisais partie de la programmation. Comment toi, cette contrainte de temps, comment ça a joué à ton endroit ? Est-ce que beaucoup de stress ? Est-ce que ça t'a aidé à dire au moins il y a une fin ?
J'ai l'impression qu'on a toujours besoin de plus de temps. J'ai jamais vécu une créa où j'ai eu assez de temps. Mais j'étais très contente d'avoir cette deadline.
Ouais.
Après, plus la deadline arrive, et plus je me dis, pourquoi le festival il est pas en décembre ? Ça aurait été tellement plus confortable. Et à la fois, c'était tellement précieux d'avoir enfin une deadline, alors que cette création elle a été longue et tellement pétrie de rebondissements, que voilà, enfin, là, c'est une première, c'est annoncé. On en a eu des échéances avec Love Manifesto quand on était 4. Voilà, c'était vraiment des étapes importantes de travail. Mais finalement, celle-là, pour avoir recréé autant de choses et s'être réappropriée autant de choses, elle était relativement courte. Enfin, j'ai 6 mois pour arriver à cet objet-là. Donc très court. Je sais que je ne suis pas encore arrivée. Donc oui, il y a eu un point final et il était précieux et il était extrêmement nécessaire. Et je sais que là, quand ça rejouera la fabrique du Rond-Vermont en décembre, elle sera encore pas finie.
Et alors, la question c'est, quand est-ce que ce sera fini ? Comment toi tu gères la temporalité de cette création-là du coup ?
Eh ben je crois que maintenant, je me dis que je me dis pas quand est-ce que ce sera fini. À Bourg-en-Bresse, ça a été fini, c'est-à-dire que la forme est définie. Après, c'est pas fini parce que il y a des choses à l'intérieur qui vont changer ou que je vais faire évoluer ou que je vais affiner. Je pense qu'il y a des choses qui se révèlent à force de jouer et à force de se confronter au public. Mais cette forme déambulatoire, le coup de foudre et l'énergie que j'ai à l'intérieur, ça ne changera pas.
Et donc, quand toi, tu crées des spectacles, il y a des moments où tu peux être financé, avoir de l'argent pour ça. Quel est ton rapport à l'argent et comment tu vis le fait de devoir créer et qu'il y ait potentiellement des attentes de financeurs derrière ?
Ouais, là, ce que Love Manifesto, ça a été un petit peu soutenu. Et du coup, c'est vrai que comme c'était la première fois, moi, je l'ai pris du côté « Ok ». On me fait confiance, il faut absolument que je puisse rendre... absolument que je sois digne de cette confiance. Grosse pression en termes de confiance et en termes de... Ok, on t'a donné de l'argent, ça y est, là, c'est pro, donc on m'attend au tournant. Je crois que ça m'a un peu empêchée de savoir de quoi j'avais envie. Et donc tout s'est déporté vers l'extérieur. De qu'est-ce qu'il faut que ça rende et qu'est-ce qu'il faut que ce soit était telle que c'est exactement à ce moment-là que ça a pas tenu, enfin qu'on s'est toutes retrouvées à sec. Ça nous a amené à un endroit où, enfin, on s'éloignait de ce que ça voulait dire pour nous, quoi. Ouais, d'un coup, moi, ça me met, j'ai l'impression qu'il y a des attentes extérieures qui m'ont éloignée de ma créativité, de ce que je veux que soit un spectacle.
Donc cette pression que vous avez vécue quand vous étiez à 4 sur le projet, comment toi, quand tu t'es retrouvée seule, comment t'as réussi à t'extraire de cette pression et comment t'as réussi à raccrocher avec ta créativité ?
Je m'en suis extraite difficilement, parce qu'après il y avait quand même l'attente de me dire « Ok, donc maintenant il y a le Théâtre de Bourg qui me fait confiance ». Mais effectivement, il y a eu tellement de chamboulements que j'étais obligée de lâcher ça et de me dire « Bon, mais ok, mais en fait, qu'est-ce que tu veux ? T'es qui, toi, sur scène ? Qu'est-ce que t'as envie de raconter ?» J'ai dû me poser énormément la question de « Qu'est-ce qui m'amuse ?» Je me suis rendu compte que j'avais oublié le plaisir de créer. Et donc, enfin, la création, les 6 derniers mois, s'est passée dans... Et dans les semaines où j'étais seule, en fait, j'ai appris à travailler seule. Et j'ai... c'est tellement difficile d'être seule au plateau face à sa caméra en disant « Bon, alors voilà, j'ai fomenté ça, je vais donc le filmer. Voilà, ben maintenant je vais le regarder. Ou ben, c'est pas très intéressant. » Et donc les semaines où j'ai été seule dans mes espaces vides, j'ai eu des grands moments de silence. Mais où finalement, ce qui est ressorti de ça, c'est là où j'ai appris à m'amuser, quoi. Je me suis amusée, et oui, et j'ai refait un stage. Et j'ai réappris, j'ai reconvoqué le clown, en fait, mine de rien. Et en fait, ça m'a vachement nourrie, et je suis sortie de là, et je me suis dit, ok, en fait, c'est bon, je sais où il est, mon petit plaisir. Il fallait que je retrouve ça. Parce que ce qui fait que je me suis perdue, c'est de vouloir que cette création, elle plaise, de vouloir qu'il y ait un public qui s'amuse, de vouloir qu'il y ait tel financeur, tel partenaire qui trouve ce spectacle super. Donc, tout de l'extérieur, mais qu'au final, la solution, elle est aussi venue de l'extérieur. C'est à force qu'on me dise, mais qu'est-ce qui t'amuse? Mais où est ton petit plaisir à toi? Mais en fait, ce qu'on veut voir, c'est du Sandrine Roldan.
Et donc, qu'est-ce que ça t'a fait te rendre compte que tu t'étais éloignée du plaisir de créer?
J'ai trouvé ça extrêmement dommage, mais par contre, c'était un tel kiff de quand c'est revenu. Et te dire, bon ben voilà, je vous propose ma vision du coup de foudre. Et qu'il faut un petit peu avoir confiance en cette vision quand même, tu vois, si on a envie qu'elle soit fun. Enfin, c'est de dire, alors voilà, moi je vois les choses comme ça, et qu'il faut l'assumer. Et c'était un grand exercice de positionnement.
Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour être interviewée pour ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire en lien avec la création?
Je crois que vraiment la chose que je retiendrai le plus, c'est... Je crois que la création, elle vient de ce qui nous amuse. Enfin, moi, je crois que si je devais recréer, je dirais ça. Je me pose cette question en premier. Qu'est-ce qui m'amuse?
Et vous alors? On s'allonge et on se dit tout? Nous sommes allés à votre rencontre, dans le théâtre et dans la rue, pour savoir, pour vous, en trois mots, c'est quoi l'amour? Alors c'est quoi pour vous l'amour en trois mots?
Mon premier mot, c'est le partage.
Tu sais que j'allais dire la même chose, maintenant j'ai plus de mots.
La magie, le respect.
Bah, du coup, j'ai dit partager, donner et recevoir, mais ça va ensemble.
L'essence de la vie.
L'amour, c'est fini. Toujours. Passion. Imprévu.
Bonheur. Tendresse. Et attachement.
En trois mots, passion, tendresse et la vie, quoi.
Refermons le tiroir de l'amour et donnons-nous rendez-vous pour notre prochain podcast sur la commode avec la thématique héroïne. Et pour toutes nos actualités, retrouvez-nous sur la toile www.théâtre-bourque.fr et sur Facebook et Instagram. À bientôt.